إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on a vu dans les cours précédents que l'état d'impureté se divise en deux catégories, qui sont l'état d'impureté mineure et l'état d'impureté majeure. Et on a vu dans les derniers cours les règles liées à la purification de l'état d'impureté mineure, et ce qui concerne les ablutions, leur description, ainsi que les choses qui les annulent. Nous allons voir maintenant les règles liées à la purification de l'état d'impureté majeure, qui concerne la janaba, les menstrues, et les lochis. Et l'état d'impureté majeure, afin de s'en purifier, il est obligatoire de faire ce qu'on appelle le roussel, qui pourrait être traduit par le lavage, et qui consiste à se laver le corps entièrement avec de l'eau, d'une manière précise, comme on va le voir à travers les paroles de l'auteur, Inch'Allah ta'ala. Et avant de passer à la lecture de cette partie du livre, je tiens tout d'abord à souligner que, comme vous le savez dans ce chapitre, nous allons aborder certains sujets qui relèvent de l'intimité de la personne. Toutefois, il est nécessaire et indispensable pour nous d'aborder ici ces points afin d'apprendre les règles religieuses qui sont liées à cela. Et il n'y a pas de gêne à mentionner cela dans le but d'apprendre sa religion. Comme l'a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha au sujet des femmes des Ansar, quelles merveilleuses femmes sont les femmes des Ansar, la pudeur ne les a pas empêchés d'apprendre leur religion. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc intitulé cette partie Bab ma yujibul ghusl wa sifatuhu, chapitre de ce qui rend obligatoire le ghusl, les grandes ablutions, et sa description. Donc comme hier, on va d'abord lire les points qu'il a mentionnés, il en a mentionné quatre ici, puis il a mentionné certaines preuves concernant ces points. Et ensuite, on va revenir sur chacun des points mentionnés. Il a donc dit rahimahullah, وَيَجِبُ الْغُسْلِ, et le rusl est obligatoire. Puis il mentionna quatre choses. مِنَ الْجَنَابَ, premièrement, de la janaba. وَهِيَ, ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala nous décrit ce qu'est la janaba. Et il dit qu'elle se produit par deux choses. إِنْزَلُ الْمَنِي بِوَطْءٍ غَيْرِهِ, la sortie du mani, du liquide séminal, suite à un rapport intime ou autre. أو بِالْتِقَاء الْخِتَانَيْنِ, ou alors par la rencontre des deux khitan, c'est-à-dire des deux membres, le membre de l'homme et le membre de la femme. Et on va détailler tout cela, inshallah ta'ala. Ensuite, la deuxième chose qui rend obligatoire le rousse, il nous dit, rahimahullah, وَخُرُوجُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ, la sortie du sang des menstrues et des lochis. Le troisième point, وَمَوْتُ غَيْرِ الشَّهِيدِ, et la mort, sauf en ce qui concerne le martyr. Et le quatrième point, il dit, وَإِسْلَامُ الْكَافِرِ, et l'entrée en islam du mécréant. Ensuite, il a mentionné deux versets qui sont des preuves de certains points qu'il a mentionnés. Il a dit, قال الله تعالى, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا. Ceci est une partie du verset 6 de Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Il a mentionné ensuite un deuxième verset, qui est une partie du verset 222 de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient pures, c'est-à-dire les femmes, puis une fois qu'elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles comme Allah vous l'a ordonné. Et il dit rahimahullah أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَا, il dit une fois qu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire une fois qu'elles ont fait le ghusl. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a aussi ordonné le ghusl pour celui qui a lavé un mort. Et il dit وأمر من أسلم أن يغتسل. Ceci sont donc les points qu'il a mentionnés au sujet des choses qui rendent obligatoire le ghusl. Donc on a dit le premier point, c'est la janaba. Et la janaba, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'elle peut se produire de deux manières. Soit par la sortie du liquide séminal, al-mani, soit par la rencontre des deux membres, le membre de l'homme et le membre de la femme. Donc concernant la sortie du liquide séminal, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'il sorte suite à un rapport ou autre que cela. C'est-à-dire que si le liquide séminal sort, al-mani, et qu'il est projeté des parties intimes de l'homme ou de la femme en procurant du plaisir, alors à partir de ce moment-là, le ghusl devient obligatoire. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que cela peut se produire suite à un rapport intime entre l'homme et son épouse, c'est-à-dire l'acte charnel. Et il dit ou autre, autre que cela, autre que le rapport, c'est-à-dire que cela peut arriver simplement suite au regard avec désir, ou alors au toucher, et si cela est accompagné de plaisir, lorsque le liquide séminal sort, alors le ghusl devient obligatoire. Il est tout de même important de noter ici que lorsqu'on parle de toucher, c'est-à-dire le toucher entre l'homme et la femme, mais qu'il n'est pas permis pour le musulman de provoquer volontairement lui-même la sortie de son liquide séminal, car ceci fait partie des choses qui sont interdites et qui font partie des péchés. Et le plaisir, à ce sujet, il ne peut être procuré qu'entre un homme et son épouse, et non pas de manière solitaire. On a donc dit que si le liquide séminal est projeté des parties intimes et que cela procure du plaisir, alors le roussel devient obligatoire. Et les savants ont conditionné cela, c'est-à-dire la procuration du plaisir. Car si le liquide séminal sort involontairement et sans plaisir, comme cela arrive à certaines personnes en raison du froid ou en raison de certaines maladies, alors dans ce cas-là, la personne n'est pas en état de janaba, mais elle perd simplement ses ablutions. Également, le liquide séminal, il est possible qu'il sorte lorsque la personne dort. Alors dans ce cas-là, le plaisir n'est pas une condition. À partir du moment où la personne se réveille et observe sur ses vêtements ou sur son drap les traces du liquide séminal, alors le roussel est obligatoire. Comme le démontre le hadith rapporté par Salama radiyallahu ta'ala anha, qui nous dit que Sulaym radiyallahu anha est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, Allah n'est pas gêné de la vérité. Fait précéder sa question par cette phrase étant donné qu'elle allait aborder un sujet qui relève de son intimité. Elle a ensuite dit: la femme doit-elle faire le ghusl si elle fait un rêve? Ce qui est visé ici, c'est le rêve érotique. Il répondit alors sallallahu alayhi wa sallam: oui, si elle voit l'eau. Et ce qui est visé par l'eau, c'est le liquide séminal al-mani. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement ici émis comme condition la vue du liquide séminal. Il n'a pas mis comme condition le fait de ressentir le plaisir. Même si la personne ne se souvient pas d'avoir fait un rêve, et même si elle ne ressent pas de plaisir, car celui qui dort, il est inconscient, il est fort probable qu'il ne ressente rien. Donc même s'il ne s'en rappelle pas et que cela ne lui a pas procuré de plaisir, à partir du moment où il voit le liquide séminal à son réveil, alors le ghusl est obligatoire. Et on en déduit de cela que s'il ne voit pas le liquide, qu'il fait un rêve, se réveille, se rappelle de son rêve, mais ne voit pas le liquide séminal sur ses vêtements, alors dans ce cas-là, le ghusl n'est pas obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis clairement comme condition dans ce hadith le fait de voir le liquide séminal. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que la deuxième chose qui peut provoquer l'état de janaba, c'est la rencontre des deux membres, c'est-à-dire le membre de l'homme et le membre de la femme. La preuve à ce sujet, le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il s'installe entre ses quatre membres, c'est-à-dire l'homme, entre les membres de sa femme, et que les deux membres se touchent, alors le ghusl devient obligatoire. Les gens de science ont dit: lorsque les deux membres se touchent, c'est-à-dire lorsque le membre de l'homme s'introduit dans le membre de la femme, même s'il ne s'introduit que partiellement, c'est-à-dire même s'il n'y a qu'une partie qui s'introduit dans le membre de la femme, alors le ghusl devient obligatoire. Et dans une version du hadith, il est rapporté: même si le liquide ne sort pas. Et ça, c'est très important à noter, car certaines personnes pensent que le ghusl est lié à la sortie du liquide séminal. Or, le simple fait que le membre de l'homme s'introduise dans celui de la femme, même si ce n'est que partiellement, cela rend le ghusl obligatoire, même s'il n'y a pas de sortie du liquide séminal. Donc en résumé, concernant ce premier point, on dira que si une personne a un rapport intime avec son conjoint, alors le ghusl est obligatoire que le liquide séminal sorte ou non. Deuxièmement, si une personne fait un rêve, puis qu'elle se réveille mais ne voit pas de traces de liquide séminal, alors dans ce cas-là, elle ne doit pas faire le ghusl. Troisièmement, si la personne se réveille et trouve la trace du liquide séminal sur ses vêtements, alors le ghusl est obligatoire, même si elle ne se rappelle pas avoir fait un rêve. Et enfin, quatrièmement, il est à noter que l'homme et la femme sont semblables en ce qui concerne ces règles. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de mentionner concerne aussi bien l'homme que la femme. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné la deuxième chose rendant le ghusl obligatoire. Et il a dit la sortie du sang des menstrues et des logis. Donc les menstrues, c'est le sang qui sort par cycle menstruel chez la femme pubère. Et les logis, c'est celui qui sort après l'accouchement. Une fois que ce sang sort, la femme est en état d'impureté majeure. Elle ne peut donc ni prier ni jeûner. Une fois qu'il cesse, elle devra alors faire les grandes ablutions afin de pouvoir prier. La preuve à ce sujet est la partie du verset 222 de Sourate Al-Baqarah que l'auteur rahimahullah ta'ala a citée. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elle soit pure, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport intime avec elle jusqu'à ce qu'elle soit pure, c'est-à-dire que le sang cesse de couler. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Puis une fois qu'elles se purifient, c'est-à-dire qu'elles font le ghusl après que le sang ait cessé de couler, alors cohabitez avec elles comme Allah vous l'a ordonné, c'est-à-dire qu'après cela, les rapports intimes redeviennent permis. Et ceci est également prouvé par le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'adressant à une femme, une fois que tes menstrues sont terminées, fais le ghusl et prie. C'est-à-dire fais le ghusl et recommence la prière. Et il est à noter ici que la femme doit s'assurer que le sang ait bien cessé de couler avant de faire le ghusl. Comme il est venu dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, auquel on a fait référence dans le cours d'hier, dans lequel elle a dit aux femmes de ne pas s'empresser jusqu'à ce qu'elles voient la perte blanche. Et les gens de science ont mentionné qu'en cas d'absence de perte blanche, la femme s'assure du retour de sa pureté par le fait que ses parties ont séché et qu'il n'y a plus de traces de sang. Le troisième point que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, faisant partie des choses rendant obligatoire le ghusl, il dit la mort. C'est-à-dire lorsqu'une personne meurt, alors il sera obligatoire de lui faire le ghusl. Et ce comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort d'un homme, a ordonné aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum de le laver avec de l'eau et du jujubier. De le laver, c'est-à-dire de lui faire le grand lavage. Et il a ordonné cela également, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de sa fille Zaynab, radiyallahu ta'ala anha. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous précise et nous dit, sauf pour le martyr. Le martyr, c'est celui qui meurt au combat. Alors celui-ci, il n'est pas lavé comme le démontrent plusieurs hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment sa parole lorsqu'il a dit, enterrez-les dans leur sang. Dans un autre hadith, il a dit, ne les lavez pas, car chacune de leurs blessures ou de leur sang qui coule sentira l'odeur du musc au jour de la résurrection. Et il a même dit concernant un compagnon qui était parti au combat en état de janaba, en état d'impureté majeure. Il est donc mort comme cela. Il a dit à son sujet, sallallahu alayhi wa sallam, votre compagnon est lavé par les anges. C'est-à-dire que les anges l'ont purifié de l'état de janaba. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné parmi les choses rendant obligatoire le ghusl, l'entrée en islam du mécréant. Et ce comme le démontre le hadith de Qais ibn Asim, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, je suis venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulant entrer en islam. Il m'a alors ordonné de faire le ghusl. Et ce hadith est rapporté par les imams Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres. Il a été jugé authentique par l'imam al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Ce hadith nous prouve donc qu'il est légiféré pour celui qui entre en islam de faire le grand lavage, de faire le ghusl. Toutefois, beaucoup de gens de science ont considéré que ce hadith ne prouve pas l'obligation de ce rousl, mais prouve seulement le fait qu'il est recommandé. Et ce, car il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est ordonné ce lavage de manière générale à toute personne qui entre en islam. Et ceux qui entrent en islam étaient nombreux à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc dit, étant donné qu'il ne l'a pas ordonné à tous, ou de manière générale, ce hadith nous prouve que cela est recommandé et n'est pas obligatoire. Et quoi qu'il en soit, c'est une question qui est sujette à divergence et sur laquelle la divergence est admise, et le mieux est que celui qui entre en islam accomplisse le grand lavage. Le cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ces quatre points, il a donc mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de sourate al-Ma'ida, prouvant l'obligation du ghusl pour celui qui est en état de janaba, et la partie du verset 222 de sourate al-Baqarah, nous démontrant l'obligation du ghusl pour la femme une fois que cesse de couler le sang de ses menstrues. Et entre dans cela les logis. Puis il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le ghusl pour celui qui fait le lavage d'un mort. En effet, il est rapporté d'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lave un mort alors qu'il fasse le ghusl. Toutefois, la majorité des gens de science ont dit que cela n'est pas obligatoire et que c'est simplement recommandé. Et ce car on trouve dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'il n'avait pas à faire le ghusl après avoir lavé un mort. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas à faire le ghusl après avoir lavé un de vos morts. Car le mort parmi vous n'est pas impur, et il vous suffit de vous laver les mains. Également, il est rapporté d'une chaîne de transmission authentique de Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, qui a dit, nous lavions les morts, parmi nous, certains faisaient le ghusl, et parmi nous, certains ne le faisaient pas. C'est-à-dire que certains faisaient le rousse et d'autres ne le faisaient pas. Ceci nous montre donc que cela est seulement recommandé et n'est pas une obligation. On a donc terminé concernant les points que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés au sujet des choses rendant obligatoire le rousse. Et ici, on pourrait rajouter un point qui concerne le rousse du Jumu'ah, les grandes ablutions que l'on accomplit le vendredi. Comme vous le voyez, l'auteur rahimahullah ta'ala ne les a pas mentionnés ici. Et ce car la majorité des savants considèrent que ce rousl est seulement recommandé et non obligatoire. Toutefois, l'avis le plus juste est que ce rousl est une obligation, comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Le rousl du jour du vendredi est obligatoire pour tout pubère. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Toutefois, lorsqu'il dit « pour tout pubère », est-ce que cela signifie que même la personne qui ne se rend pas à la prière du vendredi doit accomplir le ghusl? La réponse est non, car ceci a été précisé par d'autres hadiths, notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, lorsque l'un d'entre vous se rend au vendredi, c'est-à-dire à la prière du vendredi, alors qu'il fasse le ghusl. Donc ce qui est visé par l'obligation du ghusl du vendredi, c'est la personne pubère qui se rend à la prière. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, après nous avoir mentionné ce qui rend obligatoire le ghusl, il nous a mentionné sa description. On va donc commencer par la lire, puis revenir sur les différents points, inshallah ta'ala. Wa amma sifatu ghusli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-janaba. Quant à la description du ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'état de janaba. Et lorsqu'il dit de l'état de janaba, cela est plus général et cela englobe l'état d'impureté majeure en raison des menstrues ou des loshis en ce qui concerne la femme. Et il en est de même en ce qui concerne le ghusl du vendredi. Il dit, rahimahullah, premièrement, فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا. Il lavait ses parties intimes premièrement. ثُمَّ يَتَوَضَّهُ وُضُوءًا كَامِلًا. Puis il faisait ses ablutions de manière complète. ثُمَّ يَحْثِي الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يَرْوِيهِ بِذَلِكَ. Puis il versait de l'eau sur sa tête à trois reprises et il la faisait pénétrer sur sa tête. ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. Puis il versait de l'eau sur le reste de son corps. ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ. Puis il lavait ses pieds à un autre endroit. Ceci est donc la description du ghusl du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle est venue dans le hadith. Et il faut savoir que le ghusl, il a deux manières d'être accompli. Une manière complète, qui est celle que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionnée ici, et une autre manière qui est obligatoire, suffisante et valide, et qu'il a mentionnée après comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc la description du ghusl, elle est venue de manière complète et détaillée dans le hadith de Maymouna radiyallahu ta'ala anha, ainsi que dans le hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Donc en ce qui concerne le hadith de Maymouna, elle nous dit: j'ai amené au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'eau pour qu'il puisse faire son ghusl suite à l'état de janaba. Il a alors lavé ses mains à deux ou trois reprises. Puis il a mis sa main dans le récipient, c'est-à-dire sa main droite, et a versé l'eau sur ses parties intimes. Et il les a lavées avec sa main gauche. Puis, il a tapé sa main gauche sur le sol et l'a bien frottée. Et ce, afin de la nettoyer des souillures qui pouvaient s'y trouver. Les gens de science ont mentionné que ceci peut être fait avec du savon. Puis il a fait ses ablutions de la même manière que pour la prière. Puis il a versé de l'eau sur sa tête à trois reprises, en prenant de l'eau avec sa main. Puis il a lavé le reste de son corps. Puis il est parti de cet endroit et il a lavé ses pieds. Ceci est donc le hadith de Maymouna, radiyallahu ta'ala anha, nous décrivant de manière détaillée le ghusl du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses différentes que l'on trouve dans le hadith de Aïcha, il y a le fait qu'avant de verser sur sa tête de l'eau à trois reprises, il prenait de l'eau et rentrait ses doigts jusqu'à la racine de ses cheveux, jusqu'à voir que l'eau avait atteint sa tête. Et ceci est une chose importante à noter. Donc on va revenir, comme on a dit, sur les différents points que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Il a commencé par dire, il lavait ses parties intimes premièrement. On voit en réalité dans le hadith de Maymouna, tout comme dans le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait d'abord par laver ses mains une première fois. Et avant cela, avant le lavage des mains, il est nécessaire de souligner une chose importante, qui est l'obligation de l'intention. En effet, comme on l'a vu dans le cours sur les ablutions, l'intention est une condition pour l'ensemble des œuvres. Les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun de vous sera rétribué selon ses intentions. Donc il est nécessaire que la personne ait l'intention de se purifier de l'état d'impureté majeure. Ensuite, il est recommandé de mentionner le nom d'Allah en disant Bismillah. Et ce, comme l'ont mentionné la majorité des gens de science. Après cela, on lave ses mains, puis on prend de l'eau avec sa main droite, que l'on verse dans sa main gauche, avec laquelle on lave ses parties intimes. Après cela, si c'est nécessaire, on lave sa main gauche avec de l'eau, du savon ou autre. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, puis il faisait ses ablutions de manière complète. C'est-à-dire de la même manière que l'on a vu lors du cours sur la description des ablutions. Tu fais tes ablutions de manière complète, commençant par les mains, puis la bouche, le nez, le visage, et ainsi de suite. Ensuite, le Cheikh nous dit, puis il versait de l'eau sur sa tête à trois reprises. Et on a vu que dans le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, il nous est mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait tout d'abord de l'eau avec ses mains, puis il les faisait pénétrer sous ses cheveux, avec ses doigts, jusqu'à ce que l'eau atteigne la peau de sa tête. Car il est indispensable lors du ghusl que l'ensemble du corps soit mouillé. Donc il commençait par faire cela, et après, il versait de l'eau à trois reprises sur sa tête. Et les gens de science ont mentionné, concernant la femme, que si ses cheveux sont noués ou tressés, alors, en ce qui concerne le ghusl, suite à l'état de janaba, il n'est pas nécessaire pour elle de détacher ses cheveux. Toutefois, elle devra s'assurer que l'eau a bien pénétré jusqu'à la racine de ses cheveux, et que les cheveux ont été entièrement mouillés, en passant l'eau sur ses tresses, afin que l'eau pénètre à l'intérieur de celle-ci. Et ils ont dit que pour le ghusl, après les menstrues, ou après les lochis, alors elle devra pour celui-ci détacher ses cheveux. Et quelle est la différence entre les deux? Les gens de science ont mentionné que, en ce qui concerne l'état de janaba, ceci est une chose qui se répète, et qui est fréquent durant le mois. Donc cela serait une difficulté pour elle de détacher ses cheveux, à chaque fois qu'elle est en état de janaba et qu'elle doit faire le ghusl. Alors que concernant les menstrues, cela est seulement une fois par mois, il n'y a donc pas de gêne, et c'est pour cela qu'ils ont dit qu'elle détache ses cheveux pour faire le ghusl, après ses menstrues, et il en est de même après les louchis. Ensuite, il lavait le reste de son corps en versant de l'eau dessus. Et il est légiféré de commencer par le côté droit du corps entièrement, puis de le faire suivre par le côté gauche du corps. Ceci est recommandé. Et lorsque tu passes l'eau sur ton corps, il est également légiféré de frotter ton corps avec tes mains, afin de t'assurer que l'eau atteigne l'ensemble des parties de ton corps, et notamment ce qui concerne les plis de la peau, comme au niveau du cou, sous les aisselles, le nombril, les plis sous les genoux, et ainsi de suite. Lors du grand lavage, l'eau, il est indispensable qu'elle atteigne l'ensemble des parties du corps. Après cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'il lavait ses pieds dans un autre endroit, comme cela est rapporté dans le hadith de Maymouna radiyallahu ta'ala anha. Toutefois, les gens de science ont mentionné qu'il faisait cela car il se lavait dans un endroit où le sol était en terre. Donc après avoir fait son roussel, forcément le sol était mouillé, il était donc boueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait donc de cet endroit, puis lavait ses pieds. Les savants ont donc dit que si l'on fait le roussel dans un endroit similaire, ceci est légiféré, de laver ses pieds dans un autre endroit. Mais si tu fais ton roussel dans les salles de bain comme nous avons aujourd'hui, dans une baignoire ou dans une douche, alors ceci n'est pas nécessaire. Mais tu laves tes pieds en même temps que tu laves ton corps. Lorsque tu verses de l'eau sur le côté droit, tu laves en même temps le pied droit, puis lorsque tu verses l'eau sur le côté gauche, et que tu laves ton côté gauche, tu laves à ce moment-là ton pied gauche. Ceci est donc la manière la plus complète de faire les grandes ablutions. Et la deuxième manière, qui est le minimum obligatoire, qui est suffisante et valide, le Cheikh il nous dit, rahimahullah, wal fardu min hada, et l'obligation en cela. C'est-à-dire que tout cela, tout ce que l'on vient de mentionner, en grande partie, est recommandé. C'est la manière la plus complète de faire les grandes ablutions. Mais l'obligation dans cela, le Cheikh nous dit, raslu jami'il badan wa ma tahta ash-shu'ur al-khafifa wal-kathifa. Wallahu a'lam. L'obligation en cela est de laver l'ensemble du corps et ce qu'il y a sous les cheveux, qu'il soit épais ou peu abondant. Wallahu a'lam. Et Allah est plus savant. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait l'eau à trois reprises et la versait sur sa tête, puis il versait l'eau sur le reste de son corps. Et les gens de science ont mentionné que lorsqu'on fait le roussel de cette manière, il est nécessaire également de faire al-madmada wa al-istinshaq, le rinçage de la bouche et du nez. C'est-à-dire que si tu accomplis le roussel de cette manière, en te contentant de verser de l'eau sur l'ensemble de ton corps, bien sûr, avec l'intention de te purifier de l'état de janabah. Alors dans ce cas-là, il sera nécessaire que tu ajoutes à cela le rinçage de la bouche et du nez afin que le roussel soit valide. Et tu dois, lorsque tu l'accomplis de cette manière, bien t'assurer que l'eau atteigne l'ensemble des parties du corps, et notamment, comme on a dit, sous les plis de la peau, le nombril, les aisselles, l'âne, et ainsi de suite. Donc à partir de là, si une personne est en état de janabah et qu'elle plonge dans la mer, ou dans une rivière, dans une piscine ou une baignoire, qu'elle se plonge entièrement dans l'eau avec l'intention de se purifier de l'état de janabah, puis qu'elle rase sa bouche et son nez, alors ceci est valide, incha'Allah ta'ala. Mais la manière la plus parfaite et la plus complète d'accomplir le roussel, c'est celle qui nous a été décrite dans les hadiths de Maymouna et de Aïcha, radiyallahu ta'ala anhuma. Enfin, parmi les points à mentionner au sujet du roussel, il y a le fait de ne pas gaspiller l'eau. En effet, nombre de personnes, lorsqu'ils font le roussel, comme pour les ablutions, il laisse l'eau couler à flot et gaspille énormément d'eau. Or, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait très peu d'eau pour le roussel, tout comme pour les ablutions. Comme on l'a mentionné dans des cours précédents, pour les ablutions, il utilisait l'équivalent d'un moud, et pour le roussel, l'équivalent d'un sa'a. Et le moud, c'est la quantité qui tient lorsqu'un homme de taille moyenne joint ses deux mains. Et ceci est estimé à peu près à 600 ml d'eau. Donc ceci est ce qui est nécessaire pour les ablutions. Quant au sa'a, pour le grand lavage, cela équivaut à 4 mouds, c'est-à-dire un peu plus de 2 litres et demi d'eau. Donc lorsqu'on écoute ces mesures, on a la certitude que grand nombre d'entre nous faisons beaucoup d'excès quant à l'utilisation de l'eau, que ce soit lors de nos ablutions ou lors du grand lavage. Wallahu al-musta'an. Quoi qu'il en soit, le musulman, il doit faire des efforts afin de ne pas gaspiller l'eau lors de ses ablutions, car ceci est une adoration, et plus tu feras des efforts en cela, afin de te rapprocher de la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ta récompense sera grande auprès d'Allah, incha'Allah ta'ala. On a donc terminé pour ce chapitre, et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, le chapitre du tayammum, les ablutions sèches, bi'inillah. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.